passé et l'avenir au secours du présent.
Le beau est toujours bizarre.
Non, je n'y crois pas.
Rien ne distingue les souvenirs des autres moments.
Le bizarre est souvent beau.
C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau.
Le beau bizarre.
Non, oui, pour moi, oui.
De Zineb Souleymane.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette sixième déjà matinale du festival, les matinales qui font partie du programme des Cafés des Idées qui a lieu toute la journée ici au Cloître. Mais les matinales ont cette particularité d'être ces conversations privilégiées en tête-à-tête avec les artistes du festival, mais avec votre présence parce qu'on y compte bien. Merci d'être là. Pour ce matin, nous avons quatre artistes. Je démarre avec... Tiziano Cruz, bonjour. Avec Mariano Pensotti et Lola Arias, vous représentez une partie de la scène artistique argentine, mais avec vous, on retrouve la voix des peuples autochtones et notamment de votre communauté située au nord de l'Argentine. J'ai pu lire quelque part pour vous définir, mais entre guillemets, artiste queer autochtone. Est-ce que c'est une manière de vous présenter avec laquelle vous êtes d'accord ?
Buenos días a todos y a todas. Bueno, he tenido muchas, durante mucho tiempo, problemáticas con esa definición de artista queer, porque creo que, primero que nada, soy un artista indígena. Me gusta tener más esa definición.
Oui, en fait, bonjour à tous. Pendant longtemps, j'ai eu des problèmes avec cette définition d'artiste queer parce que je crois que je suis avant tout un artiste autochtone.
Porque también la sexualidad en la región de la que yo pertenezco, que es el norte de Argentina, que es una de las poblaciones o regiones más pobres de nuestro país, la sexualidad como tal es algo que de la cual no se reflexiona, ¿no? Porque tenemos como otras problemáticas, como el ver dónde vamos a dormir durante la noche, qué vamos a comer durante el día. O sea, no tenemos resueltas necesidades básicas, entonces la sexualidad no se piensa, sino que se vive.
Oui, et en plus, hein, parce que la sexualité dans la région d'où je viens, qui est le nord de l'Argentine, une des régions les plus pauvres du pays, on ne réfléchit pas à la question de la sexualité parce que nos questionnements sont sur où nous allons dormir la nuit, ce que nous allons manger pendant la journée. Hein, donc, quand les nécessités de base ne sont pas couvertes, effectivement, on ne réfléchit pas à la sexualité, on la vit.
Yeah, lo último. Pero ahora, como ya me reconcilié con esa, con ese término, pienso que puedo ser catalogado como un artista indígena queer, que me parece muy representativo también de poder hablar sobre las minorías sexuales que existen dentro de las comunidades indígenas en todo el territorio de América Latina.
Oui, et aujourd'hui, je dirais que je suis réconciliée avec ma communauté. Hein. Je crois que on peut me donner cette définition d'artiste indigène queer parce que je trouve intéressant aussi de représenter les minorités sexuelles qui sont présentes dans les différentes régions d'Amérique latine.
Merci. Pour votre première fois au Festival d'Avignon, vous présentez les deux derniers volets d'une trilogie démarrée en 2015 et qui prend ses racines dans un fait personnel tragique qui est la mort de votre sœur. Vous présentez Soliloquio jusqu'au 13 juillet et Vaikekuna à partir de ce soir et jusqu'au 14 juillet, les deux au gymnase du lycée Mistral. Peut-être avant de parler de ces deux derniers volets, revenir un peu sur le premier qui n'est pas présenté au festival et qui semble pourtant éclairer les deux suivants. Il a pour titre Adios Matapac, que l'on peut traduire par Adieu Père. Et le Père ici comprend une double signification, c'est bien ça ?
Sí, bueno, la trilogía de obras lleva el nombre de tres maneras de cantarle a una montaña y cada obra es un canto, como que alguien se pone delante de una montaña y le canta una canción.
Alors la trilogie, en fait, hein, les trois titres sont les différents types de chants que l'on adresse à une montagne. Voilà, les gens se mettent devant la montagne et chantent un chant spécifique.
Específicamente la primera obra, que es una obra dedicada a una reconciliación con mi padre biológico y una despedida de mi padre artístico, que yo digo que es el teatro griego, porque es el tipo de formación que yo he tenido en Argentina, que hay en Argentina. Matepak es la etimología de padre en griego. Entonces hacía como ese juego de palabras como adiós Matepac, adiós padres, porque sentía que necesitaba desprenderme de ese modo de producción teatral aristotélico para encontrar una nueva forma de hacer artes escénicas o teatro desde una perspectiva indígena.
Oui, la première œuvre, en fait, hein, elle parle de la réconciliation avec mon père biologique et elle marque également mes adieux avec mon père artistique, qui est le théâtre grec. C'est la formation que j'ai eue dans le théâtre. C'est la formation en fait théâtrale qui nous est dispensée en Argentine en fait, hein, et maintenant je dans cet adieu en fait au père donc qui avait pour titre Adios Matepac, qui était en fait un jeu de mots, hein, sur ce double mouvement entre différents pères, mais maintenant en fait j'ai réussi, je crois, à me défaire de cette pratique théâtrale aristotélicienne pour arriver à une pratique théâtrale qui est bien plus proche du monde autochtone.
Mais à quel moment vous avez pris conscience justement de la nécessité de déconstruire votre rapport au théâtre grec, votre formation d'origine dont vous parliez, et le besoin de s'affranchir du regard européen ? Quel a été le déclic ?
Bueno, ha sido un largo camino. Pero el desencadenante de esta problemática ha sido la muerte de mi hermana. Mi hermana muere el 20 de mayo del año 2015 por negligencia médica ahí en mi región. Y es a partir de ahí que yo me hago como esa gran pregunta, ¿no?, de qué lugar ocupa nuestro cuerpo en un país como Argentina, donde hay un deseo de blanquitud, ¿no? Que yo digo que hay una imposibilidad del blanqueamiento físico, pero hay un blanqueamiento ideológico. Y en ese blanqueamiento ideológico hay cuerpos que valen más y cuerpos que valen menos, y nuestros cuerpos valen menos y nos dejan morir.
Oui, ça a été un long chemin, hein, mais en fait, ce qui va tout déclencher, c'est la mort de ma sœur le 20 mai 2015 en raison d'une négligence médicale. À ce moment-là, je vais me poser la question de quelle place ont nos corps d'autochtones, hein, dans un pays comme l'Argentine, où bien évidemment le blanchiment des corps n'est pas possible, mais où il y a d'une certaine manière un blanchiment idéologique en fait, hein, et nos corps ne correspondent pas. Donc, quelle place ont-ils? Quelle valeur ont-ils? Et nos corps valent moins que les autres corps.
Por ejemplo, cuando inicié este proyecto, me acuerdo que, bueno, yo era muy joven, además, y yo quería ser, cuando empiezo a pensar en este proyecto, quería volverme una persona muy conocida, tanto en mi región como a nivel internacional, quería ser famoso, que parece muy banal ese deseo. Y quería, porque decía que si mi familia volvía a caer en manos del sistema de salud, esas personas que lo iban a recibir en esos espacios los iban a reconocer, ¿no? Entonces iban a decir, es la madre de Tiziano, es el padre de Tiziano, son los hermanos de Tiziano, no los podemos dejar morir fácilmente, ¿no? Esa era como la idea primaria que tenía. Sin embargo, casi 8 años después de ese primer deseo que tuve, después de 8 años, ahora soy un artista sumamente conocido a nivel internacional. Estoy en este festival tan emblemático para el mundo. Y mi madre murió este año, el 3 de marzo, postrada en una cama, de nuevo en manos del sistema de salud, a la espera de sus medicamentos para el cáncer, ¿no? Entonces, un poco también lo que vengo a hablar es del racismo estructural que existe en mi país, donde no importa lo que uno haga, ¿no? Todo el tiempo hay una sociedad que se ocupa de ponernos en el lugar que a nosotros nos corresponde, que es el lugar del anonimato, y el anonimato asociado literalmente, y acá no hay metáfora, con la muerte.
Merci Pascal de nous faire cette médiation linguistique. Alors,
oui, hein, quand ce projet débute, je suis très très jeune, et ce que je veux alors, c'est devenir très connue, aussi bien dans ma région qu'au niveau international. Je veux être célèbre. Alors, c'est un désir un peu banal, en fait, hein, mais la racine de ce désir, son fondement, c'est de penser que si je suis connue, personne dans ma famille, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, s'ils sont de nouveau confrontés au système médical, ils ne seront pas laissés de côté. C'est-à-dire, on les reconnaîtra, on se dira c'est la mère de Tiziano, c'est le père de Tiziano, c'est le frère ou la sœur de Tiziano. Donc, on ne peut pas les laisser mourir. Il faut donc qu'on les soigne bien. Ça, c'était il y a presque 8 ans. Aujourd'hui, je suis connue à l'international. Je suis aujourd'hui au Festival d'Avignon, ce festival emblématique. Mais en même temps, ma mère est décédée le 3 mars d'este año 2024. De cette année, hein, prostrée dans son lit, dans l'attente des médicaments qui auraient pu la soigner, qui auraient pu soigner son cancer. Donc je suis ici, je crois, pour dénoncer un racisme structurel qui existe toujours dans notre société, une société qui nous assigne toujours une certaine place, et cette place, c'est celle de l'anonymat. Un anonymat, qui va, et ça, ce n'est pas une métaphore, jusqu'à la mort.
Votre trilogie, justement, bien qu'autobiographique, révèle la volonté d'articuler, comme vous le disiez à l'instant, récit intime et acte politique. Vous ne cessez de rappeler que le décès de votre sœur est la conséquence donc de cette discrimination systémique, un système qui maltraite le corps autochtone pour le voir disparaître au profit ou à la faveur du corps blanc hégémonique. Avec cette trilogie, vous posez la question de la place qu'occupe le corps autochtone dans un monde dominé par la pensée coloniale. Et je ne peux pas m'empêcher de poser la question de comment vous soldez l'équation délicate de répondre positivement aux invitations que les scènes des théâtres européens vous formulent, en évitant de tomber dans l'instrumentalisation exotique. Et surtout, comment composer avec le regard d'un public majoritairement blanc ?
Gracias por la pregunta. Yo creo o tengo mucha esperanza de que está habiendo o va a haber un gran cambio de paradigma, porque pienso que sobre nosotros, las culturas indígenas, siempre se ha hablado, no solamente en el teatro, sino en diferentes lugares y demás. Y siempre nos han dicho cómo sentimos, cuáles son nuestras necesidades, cómo debemos vestirnos, qué es lo que debemos hacer, y así un montón de cosas sobre nosotros, ¿no? Y el teatro no ha escapado a ello, ¿no? Siempre ha habido directores, directoras que se han llevado todo el rédito económico y simbólico hablando sobre nosotros. Y yo creo que el gran cambio de paradigma es que nosotros, artistas indígenas, artistas de la periferia, estemos tanto acá en este Festival de Aviñón, contando nuestra propia historia, girando por todos los festivales del mundo para contar las historias, porque ya no necesitamos que hablen por nosotros. Nosotros, al igual que las personas blancas, también tenemos la capacidad de pensar, de reflexionar, de hacer una crítica social y económica y cultural del territorio en el que vivimos, del mundo en el que vivimos, ¿no? Yo siempre hablo de una perspectiva indígena del concepto de esperanza, ¿no? La esperanza creo que es la única herramienta que nos permite hacerle frente a este sistema capitalista, donde porque el que espera no consume. Y lo que peor que le podemos hacer a este sistema capitalista es dejar de consumir, ¿no? Pero esta esperanza de la que yo hablo no es una esperanza pasiva, una acción pasiva, ¿no? Sino es una esperanza que trabaja todo el tiempo para construir ese mundo donde las minorías o los artistas y personas que vivimos en la periferia necesitamos vivir, ¿no? Yo siempre digo que pertenezco a una parte de la población donde estamos cansados de sobrevivir, ¿no? Yo hallo una gran diferencia entre sobrevivir y vivir, y nosotros queremos un mundo donde no solamente nosotros podamos vivir, sino que tanto ustedes como nosotros podamos vivir.
Oui, je crois en tout cas, j'espère qu'il va y avoir un grand changement de paradigme parce que de tout temps, on a parlé de nous, les autochtones. On nous a dit ce qu'on devait sentir, ce dont on avait besoin, comment on devait s'habiller, ce qu'on devait faire. Et le théâtre n'a pas échappé à ça, évidemment. Il y a toujours eu des metteurs en scène et des metteuses en scène, en fait, qui d'une certaine manière se sont appropriés le succès tant symbolique qu'économique des œuvres où ils ont pu nous représenter, en fait. Et je crois qu'aujourd'hui, nous, les artistes autochtones, et j'en suis un, je suis ici avec des œuvres qui vont tourner, on est capable et on raconte notre propre histoire. On n'a pas besoin que les autres peuvent le fassent à notre place. On peut penser, on peut réfléchir socialement, politiquement, culturellement au monde dans lequel on vit. Et je crois que pour moi, il y a un concept essentiel. Et ce concept essentiel, c'est l'espoir, en fait. Et ce n'est que ce concept-là qui va nous permettre, en fait, d'en finir avec le système capitaliste. Parce que celui qui est expert, d'une certaine manière, il ne consomme pas. Et ne pas consommer, c'est la pire des choses qu'on puisse faire contre le système capitaliste. Mais il ne s'agit pas d'un espoir passif, il s'agit d'un espoir tout à fait actif, d'un espoir qu'on met au travail pour que tous les gens qui aujourd'hui se trouvent à la périphérie de nos sociétés puissent vivre. Je fais une grande, et non pas survivre. Et pour moi, il y a une grande différence entre la vie et la survie. Nous en avons assez de seulement survivre. Nous voulons vivre, mais nous ne voulons pas vivre seulement entre nous. Nous voulons vivre, nous voulons avoir le droit de vivre, nous voulons que vous ayez aussi le droit de vivre. Et on veut vivre tous ensemble.
Tiziano Cruz, le temps va nous manquer ce matin pour que je puisse vous poser toutes les questions que j'ai préparées, mais merci pour vos réponses. Vous présentez Soliloquio jusqu'au 13 juillet, Vaike Kuna du 10 au 14 juillet au gymnase du lycée Mistral. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci.